un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
L'histoire se passe à Ocean Beach, San Diego, aux États-Unis, en avril 2014. Christopher a 5 ans lorsqu'il essaie désespérément de jouer avec la Xbox de son père, protégé par le contrôle parental. Le petit garçon se met alors en tête de contourner l'interdit et essaie en vain quelques mots de passe. À force de ténacité et de génie, le voilà qui trouve dans le système une porte dérobée, lui permettant d'entrer un mauvais mot de passe suivi d'une série d'espaces. Et abracadabra, la box se déverrouille et un monde merveilleux de monstres ou de guerriers s'ouvre à lui. Christopher von Hassel a trouvé une faille de sécurité dans le système de Microsoft. Le forfait de ce mini-hacker est cependant vite découvert. Mais son père, au lieu de le punir ou de le priver de console, contacte Microsoft qui le congratule, lui offre $50 et un an d'abonnement gratuit. Christopher devient ainsi le plus jeune chercheur en sécurité agréé par le géant informatique. Il a même droit à sa page Wikipédia à 5 ans. Tout de suite dans les pieds sur terre, pour ouvrir cette nouvelle saison de notre émission, un très jeune hacker bien de chez nous, aux parents hélas moins vigilants et informés que ceux de Christopher par Amy Dibowski-Douette.
Je m'appelle Florent Curtet, j'ai 34 ans et je suis passionné d'informatique depuis tout jeune, depuis tout petit. L'école ne me plaisait pas vraiment, j'étais un petit peu en avance, on va dire, sur mon âge. Moi, mon loisir, c'était pas forcément d'aller faire du skateboard ou, je sais pas, du roller, ou c'était plutôt d'aller demander à papa si je pouvais aller sur l'ordinateur, ou peut-être parfois même de pas lui demander, et puis de découvrir la machine tout seul, quoi. Je me rappelle lorsque, par exemple, nous avions sur l'ordinateur un jeu qui avait que 2 niveaux gratuits ou 15 jours d'essai, en général des logiciels qu'on achetait à son marchand de journaux, moi j'ai voulu comprendre comment c'était possible que la machine nous bride, puisqu'on avait déjà le logiciel. Je savais que derrière on pouvait aller plus loin, en fait, on pouvait aller plus loin que les 7 jours ou les 15 jours d'essai. Donc ces barrières, je les trouve, je les analyse, je trouve les solutions sur des forums. Et je commence un petit peu à l'école primaire à graver des disques qui sont débridés et j'en fais un petit commerce dans la cour de récré. Et ensuite, rentré au collège, moi ayant sauté une classe et étant un petit peu petit de taille, on va dire que j'étais une cible facile pour certaines brimades, certaines violences physiques, verbales, de vol, de raquettes. Moi, mon refuge, mon seul pote, c'est une machine avec qui je peux faire ce que je veux, je peux aller sur Internet. L'étape collège a été vraiment très difficile. J'ai préféré largement me retrouver derrière mon ordi qui, pour le coup, lui, me laissait tranquille et me laissait faire un peu ce que je veux. Et donc, le fait d'être de plus en plus derrière mon ordi fait que je traîne de plus en plus sur des forums et peut-être des forums de plus en plus louches. Et je pense que mon premier méfait bancaire, ça a été de générer des numéros de carte pour pouvoir appeler de manière illimitée, mais depuis son téléphone portable. Là, je dirais que j'ai à peu près 14 ans, et depuis mes 7 ans, 8 ans, j'ai comme lecture des magazines spécialisés dans l'informatique et dans la sécurité informatique. Et dans ces écrits, j'apprends au fur et à mesure tout plein de techniques de contournement. Alors bien sûr, ce sont des magazines qui sont légaux et qui sont faits pour la cyberdéfense, en fait. Mais évidemment, il y a aussi un lectorat qui est plutôt dans la bidouille, comme moi. Et c'est vrai que toutes ces lectures, ces essais, c'est aussi le fait d'apprendre sur les forums, parce que sur les forums, il y a des gens qui connaissent les dernières techniques, les dernières failles, les derniers exploits. Un exploit, c'est en fait une faille qui est utilisée pour attaquer un site. Et tout cela m'amène donc à attaquer les sites internet. J'y passe tout mon temps, tout mon temps. Non-stop, tous les jours de toute la semaine, de tout le mois, de toute l'année. C'était flippant de voir son gamin scotché derrière le PC. Donc mes parents, bien sûr qu'ils ont essayé de limiter par plein de biais, que ce soit physique avec un cadenas ou par des mots de passe, par des... Mais à chaque fois, je contournais. Soit je crochetais la serrure, soit je refaisais sauter le mot de passe. Parfois, ils cachaient des prises, et puis moi, j'allais en récupérer une autre. Donc, c'était vraiment un jeu du chat et la souris. Et le soir, pareil, quand je me faisais griller à minuit, alors que bah, normalement, quand t'es en troisième ou quatrième, t'es censé te coucher vers 23h, grand max. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils avaient fait pour m'entendre. Et donc, j'avais fait un petit plan sur une feuille A4 et j'avais mis tous les points chauds, les endroits où il fallait que je fasse attention. Et j'avais numéroté les marches de l'escalier. Sur chaque marche, j'avais mis en rouge ou en vert les endroits marchés, pas marchés, etc. S'il y avait un grincement, je mettais de l'huile. Voilà, enfin, j'essaie de me faire un petit plan de militaire pour mon exfiltration ou mon infiltration, tout simplement vers l'ordi. En fait, rien que de déjouer une sécurité... Devenir administrateur d'un site, c'est une satisfaction pour moi, parce que je manque de rien à la maison. Maintenant, voir certaines personnes qui avaient de l'argent de poche, 10 euros par mois, 20 euros par mois, moi, si je pouvais aussi outrepasser cette limitation et avoir plus. C'est là où j'ai commencé à rentrer dans le business de cartes de crédit que je récupérais depuis des sites marchands, parce que c'était plus ou moins les seuls qui contenaient des cartes de crédit, en fait. Pour ensuite faire des achats en ligne, à la Fnac ou Boulanger, Darty, ou les revendre directement à des personnes sur le Darknet d'antan. À ce moment-là, j'ai 15 ans. Donc, je m'achète les dernières consoles, j'en achète pour mes amis, je pète les restaurants à tout le monde. Et puis après, l'idée fabuleuse me vient de cloner ces cartes, en fait. Pour les avoir pas seulement en tant que numéro, mais de les avoir sur un vrai support, une carte comme la vôtre ou comme la mienne, avec le nom, le prénom, avec une bande magnétique, etc. Je me forme donc à cette activité qui s'appelle le skimming, et c'est d'encoder, on va dire, des numéros de cartes de crédit sur des vraies cartes de crédit physiques. Et en fait, je commence cette activité parce que je voulais aussi aller faire les magasins, en fait, et avoir le code triche argent illimité. Un peu comme si j'étais dans un jeu vidéo. Lors de mes virées, voilà, je choisissais les cartes. Parce qu'en fait, dans une carte de crédit, avec les 6 premiers chiffres, on peut savoir le type de carte, donc Visa, Mastercard, le type de compte, donc Gold, Première, Platinum, Centurion, Infinite, et la banque qui est rattachée. Et donc, avec ça, je m'assurais évidemment d'aller taper dans des... compte de riches texans, voilà, où je sais que 5000 euros par-ci, 10000 euros par-là, ça sera quasiment invisible. Et ça me permettait aussi de pouvoir faire des emplettes à la hauteur de ce que je désirais. Donc, par exemple, voilà, les fringues, parfois c'était 20000 euros de fringues que je ramenais chez moi. Pareil pour les spas ou les nuits d'hôtel que je me payais, c'était des sommes, voilà, mirobolantes. Vers 16 ans, 17 ans, je vis un peu une vie de pacha, on va dire. J'en fais pas étal de la manière de mon enrichissement, enfin en tout cas de ma source d'argent, mais par contre, voilà, les gens me voient bien, bien apprêté, on va dire. Et puis après, m'est venue encore une fois la super idée de me mettre à fabriquer moi-même les cartes. Et donc j'ai acheté un embosseur. C'est un outil qui chauffe le plastique et qui, après une action manuelle, fait ressortir les chiffres de la carte. Je me suis procuré des hologrammes Visa pour les mettre sur le plastique. Tout ça, bien sûr, sur le dark web. La bande magnétique, je savais déjà l'encoder. Puis voilà, après, je me suis mis directement à en vendre, en fait. Et il y avait des mois où je gagnais 0 euros, tout comme il y a des mois... où en une transaction de 5 minutes, je faisais 20 000, 50 000 euros. Je sais pas, 100 000 euros en une journée, c'était largement faisable. L'argent, en fait, je ne l'amoncelle pas, je l'accumule pas. J'ai des beaux habits, j'ai un bon teint de peau à cause de mes soins en spa. Et je suis heureux comme ça, en fait. L'argent me rendait pas heureux. Moi, c'est ce que ça représentait aux yeux des autres. C'est plutôt ça qui me rendait heureux. Bien sûr que mes parents, il y a quand même l'instinct parental qui fait qu'évidemment, à plusieurs reprises, ils m'ont chopé la main dans le sac. Quand ma mère tombe sur des cartes de crédit dans un album photo, elle a très vite compris que c'était pas seulement ma petite société d'importation d'accessoires téléphoniques que j'avais créée, mais que c'était peut-être autre chose. Et à plusieurs reprises, ils m'ont dit, on va devoir te dénoncer parce que plus le temps va passer et plus ça va être grave et plus tu vas prendre cher, en fait. Ils étaient pas du tout au courant de l'ampleur, mais ils se doutaient évidemment qu'il y avait quand même un caractère largement frauduleux. Et vers, je crois que c'est vers 18 ans, dans ces fameux forums de Darknet primitif, je vois qu'il y a des gens qui vendent des faux billets. Et je me dis, pourquoi est-ce que moi, je ne sais pas faire ça encore, en fait. Et donc, je me renseigne, et donc j'apprends qu'il faut un certain papier avec un certain grammage, une certaine granulométrie, il faut une certaine encre. En fait, c'est très complexe, un billet de banque. Et donc, dû à ma curiosité, encore une fois, je m'y suis mis dedans et je me suis mis à acheter le bon papier à certains revendeurs, la bonne encre, à ces différentes techniques pour qu'ils passent ou qu'ils passent pas dans certains magasins. Parce que, au début, ils passaient au kebab du coin. Mais après, je l'avais essayé, je crois, un jour chez McDonald's et je m'étais fait toper. Donc j'essaie de corriger, j'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas, je mets un coup de fer à repasser sur la bande aluminium à droite, je mets un peu de spray pour les cheveux pour le rendre un peu plus rugueux, et hop, ça marche de mieux en mieux, etc. Et puis finalement, le risque est gros pour ce que c'est, ça m'est vite passé, mais je me suis mis pendant un mois non-stop à essayer d'apprendre comment était fabriqué en fait un vrai billet. Parce qu'encore une fois, on parle de sécurité. On parle de, plusieurs dizaines de points de sécurité sur des billets de banque. Donc pareil, je voulais essayer d'outrepasser ces sécurités. À chaque fois, on en revient un petit peu au même point. C'est contourner. Et je grossis en termes de volume de vente de cartes. En fait, je deviens revendeur, mais sans vraiment le vouloir, parce que moi, ce que je voulais être, c'est dans ces fameux forums, je voulais être reconnu. C'était un besoin de reconnaissance. Et en fait, malgré moi, je suis devenu une cible de très grand choix pour les services compétents. Et donc, un jour, lorsque je suis parti dormir chez ma petite copine de l'époque, j'avais effectivement un deal à faire. Je devais vendre 20 000 comptes. Et parce que la personne qui était acheteuse n'était pas dans la même zone géographique que moi, fallait que je sois debout à 8 heures. Et fallait qu'on le fasse, je crois, à 8h20 ou 8h30. Et je me suis réveillé beaucoup trop tard. Et donc, j'ai pris le risque, malgré certaines protections que j'avais mises en place très vite sur le tard, comme ça, de le faire depuis l'ordinateur du père de ma petite copine. Et il s'avérait qu'en fait, l'acheteur, c'était un gars que les services secrets américains avaient retourné, en fait. Et là, ils ont tracé tout de suite une adresse en France. Ils ont pu après très vite égrener avec mon pseudonyme. Ils ont fait une sorte d'enquête de voisinage, je dirais, puisqu'ils ont appelé aussi mon lycée. Je le sais parce que, malgré les relations exécrables que j'avais avec mon conseiller principal d'éducation, mon CPE, un jour, il m'a convoqué dans son bureau, donc je me suis dit, je vais me prendre une colle, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et en fait, là, non, pas du tout. Il m'a dit, je sais que tu fais des choses qui sont graves, il faut vraiment que tu arrêtes ça, j'ai pas le droit de te le dire. Et donc, je suis ressorti de son bureau un peu bouleversé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Pourtant, je suis discret sur mon activité parce que j'avais pas mal de protection à la maison au niveau informatique. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'avais acheté une barrette de shit? Parce que, à l'époque, je sais pas, j'avais un peu goûté au hashish, quoi, au joint. Par défaut, je planque, on va dire, les trois quarts de mon matériel informatique sensible chez un pote, au cas où. Et en fait, un mois se passe, il se passe rien. Je récupère mon matos et puis le bac commence, la semaine du bac commence. Je fais l'épreuve du lundi et le mardi, c'est pas ma mère qui vient me réveiller, c'est la police. À 6h du matin. C'est l'écho à la porte qui disent « Police, ouvrez ». Et en fait, je sais pas, pareil, c'était un instinct de survie, mais j'étais tout de suite réveillé comme si j'avais pris un shoot de café, quoi, ou même 10 tasses de café d'un coup. Et hop, j'ai tout de suite su que c'était pour moi. Après, ça a été confirmé parce que mon père a dit « Ah, ça va vous le chercher, bah, il est là-haut dans sa chambre », quelque chose comme ça. Donc là, je sais pas trop quoi faire, je suis dans ma chambre. Je sais que j'ai une clé USB, qui est un peu une clé USB maîtresse, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, incriminantes, on va dire. Donc, j'ouvre la fenêtre pour essayer de l'acheter par la fenêtre, mais je vois qu'il y a, il y a des types en bas. Après, je la regarde et j'entends que ça monte, l'escalier monte assez vite, assez fort, et je me dis « Est-ce que je l'avale ?» Je me suis dit « Non, je peux pas. » Donc, je la planque sous le drap de dessous de mon lit, mais... En fait, ce que je savais pas, c'est que ma chambre, ça allait devenir un terrain de jeu pour eux pendant trois quarts d'heure, une heure, à complètement saccager, hein. Comme dans les films, hein, c'est fla, 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 ça, ça. Et il y a tout qui vole, qui saute, chaque page de chaque bouquin, chaque machin, chaque truc, qui récupère tout, ils récupèrent tout, ils récupèrent des cartes clonées, ils récupèrent des clés USB, quelques faux papiers que je m'étais fait pour mes identités lors de mes passages dans des hôtels, par exemple. Il y a aussi quelque chose qui récupère pas, c'est qu'il y a du matériel qui est là-haut, dans le grenier. Parce que moi, j'avais dans ma chambre, évidemment, un ordi aussi, hein, mais il y avait aussi un ordinateur là-haut, dans le grenier. Et donc, au moment où ils disent « Bon, bah c'est bon, on y va, il n'y a plus rien », je leur dis « Non, non, il n'y a plus rien ». Et mon père, dans une sagesse, je pense, il a dit « Non, vous devriez peut-être monter là-haut ». C'est là où ça a commencé un petit peu à coller avec les flics, c'est « Oh, j'ai trouvé un MSR ». Donc le MSR, c'est ce que j'utilisais pour encoder les cartes. Et en fait, je me reconnaissais un peu dans leur côté un peu fougueux, fouineur, curieux. Et puis voilà, hein, après, une fois qu'ils ont tout saisi, on descend les escaliers pour arriver à l'entrée de la maison. Je dis au revoir à mes parents, évidemment, qui sont effondrés. Je pense que mon père avait compris que c'était sans doute la meilleure chose qui me soit arrivée. Ma mère, évidemment, effrayée de ne plus me revoir pendant très longtemps, donc évidemment. Et puis là, bah, c'est vraiment la deuxième étape qui commence, l'étape la moins marrante, quoi. Giro à fond pour aller à Nanterre, à l'OCLCTIC, l'Office de lutte contre la cybercriminalité. Et ouais, normalement, mais une bonne heure pour arriver à Nanterre depuis Ponto. Là, on a mis un quart d'heure, quoi. Enfin, c'était. Je me souviens, dans les tunnels, les lumières qui me flashaient la gueule, comme une mitraillette dans les yeux, quoi. C'est. Et je me suis dit. Enfin, là, je contrôle plus rien. La perquise s'est terminée vers environ 7h du matin, donc au maximum 7h30, on était à Nanterre. Et puis là, bah, toute la journée, ils commencent à éplucher tout ce qu'ils ont trouvé. J'avais même découpé des papiers en 1001 morceaux dans ma poubelle. Donc il y avait un gars au sol qui faisait du puzzle, le pauvre, pour refaire le papier. Et bah voilà, on commence ces interrogatoires, et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu troublant, mais je me rends compte que je suis avec des geeks, en fait. Je suis avec des mecs qui ont 10 ans, 15 ans de plus que moi, mais qui sont passionnés comme moi. Ils ont du super matos. Je me dis, mais en fait, je suis dans les bureaux où j'aimerais être tous les jours pour bosser. Je suis avec des passionnés comme moi, quoi. Je suis évidemment pas bien du tout, hein. Je fais pas du tout le malin, mais je me dis, waouh, ça existe, il y a cette facette-là aussi. Il y a des métiers de geek qui existent. On peut devenir geek en tant que métier, quoi. Passion, métier. Malheureusement, à cette époque-là, j'étais du mauvais côté. Et donc voilà, bah, première nuit, la bouffe et même le sol dans 6 mètres carrés. Le temps passe à une longueur, on enchaîne les auditions. Et puis à un moment, au bout de 72 heures d'interrogatoire, ils m'ont amené devant la juge des libertés qui m'a écroué à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine. Là, je me dis, bah, en fait, tes conneries derrière ton ordi, c'était pas forcément des petites conneries. En fait, c'est répréhensible. Même si t'as, entre guillemets, fait de mal à personne, pas d'atteinte physique, pas de sang, pas de drogue, je me dis, on rigole pas avec l'argent, quoi. Même si c'est de l'argent qui vient de comptes américains, je me rends compte que c'est très sérieux. Voilà. Donc, fourgon pénitentiaire, cette petite cage à poules, là, et photo, empreinte palmaire, carte de détenu, dépliant, guide du nouveau détenu. Par contre, j'ai eu la chance, en co-détenu, j'ai eu Kevin, qui avait à peu près mon âge, et lui, pour le coup, était récidiviste. Et lui, heureusement, m'a formé pour que ça se passe le mieux possible, quoi. Donc, comment filouter pour se faire passer des choses entre les cellules, les yo-yo. Faire attention à qui parler, à qui pas parler, comment regarder les gens, ou comment surtout ne pas les regarder, comment marcher la promenade, et à quelle allure, comment s'habiller. Voilà, c'est sûr que c'est extrêmement dur, parce que là, on se dit, mais je suis bloqué dans une boîte en métal. Là, j'ai plus le contrôle du tout, je ne peux plus contourner, en fait. C'est impossible. Dès les premières promenades, en général, quand il y a une nouvelle tête qui passe, on demande notre tête pourquoi. Donc on demande soit le numéro d'écrou, soit les chefs d'accusation. Et moi, j'avais été annoncé, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, sans doute parler de Maton, c'est pas les surveillants. Et c'est vrai que lorsque je donnais mon numéro d'écrou, ah bah vas-y, tourne avec moi, t'inquiète, ça va bien se passer. Tourner, c'est marcher dans la promenade en rond. Vraiment faire des ronds. Et donc, pour le coup, moi, j'ai eu une détention largement correcte parce que j'ai eu aucun souci. Bien au contraire, j'avais des cadeaux tous les soirs à la fenêtre. Même, il y avait parfois une surveillante qui ouvrait la porte et qui me donnait un petit paquet. Et dedans, il y avait briquets, cigarettes, des bonbons. Voilà, j'avais un carnet d'adresses, enfin, carnet d'adresses de matricule de prison, long comme mon bras, pour faire ce que j'appellerais de la vraie criminalité. Il faut savoir quand même qu'en prison, il y a de l'entraide. Mais moi, j'ai été un peu chouchouté, c'est vrai. À cause de mon pédigré, ouais. Parce que je pense que c'était même la première fois qu'ils voyaient arriver un petit gars comme moi. Donc, ils se sont dit, mais c'est d'où il sort, ce gamin, quoi. Et donc, via le conseiller d'insertion de la prison, j'ai eu un jour... la nouvelle, comme quoi il y aurait un juge à Marseille qui voudrait me voir. Parce que moi, j'avais absolument aucune idée de l'instruction. Bon, je savais qu'il y avait eu un coup de filet parce que lors des auditions, on m'avait parlé de certains membres éminents du forum. Donc, je savais que c'était une affaire internationale. Mais je me rendais pas compte de qui était quoi, comment me défendre. J'avais pas d'avocat, j'avais rien. Et un jour, à 6h du matin, pareil, tac, cureté, debout, paquetage, tu sors, tu pars à Marseille. Et là, bon, bah, rebelote, fourgon pénitentiaire, et puis après, bah, arrivé à Marseille, le juge a été très clair, il a dit, 90% des faits que vous avez faits pendant que vous étiez mineur, on vous a arrêté pendant le bac, donc on va vous donner une chance pour la session de rattrapage en septembre. Et vous avez intérêt à l'avoir. Donc il m'a mis sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de pointer au tribunal de grande instance de Créteil, toutes les 2 semaines, je crois, et surtout d'avoir mon bac, que j'ai eu la chance d'obtenir après avoir révisé voilà, en vacances. Et donc ensuite, je saisis cette chance d'avoir le bac et je m'inscris dans une école de commerce. Un peu par défaut, parce que j'avais quand même ce virus de l'entrepreneuriat. Puis j'obtiens mon master et puis tomber dans une sorte de dépression, hein, un petit peu allergique aussi à l'informatique. Ça m'avait un peu rebuté toute cette histoire, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc j'ai pris un job par défaut, gestionnaire d'actifs dans une grande société. Et donc je passais mon temps à gérer l'argent des personnes retraitées. Ça m'a pas plu du tout. Et puis, à un moment, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, si tu veux faire le métier des mecs qui t'ont arrêté, il faut que tu fasses un G, ou en tout cas que ce soit dans un groupe d'école d'un G. Et donc, j'ai rejoint le groupe Mine Télécom et j'ai obtenu mon master. Et très vite, j'ai émis le souhait de rejoindre une équipe de pentesters. Pentester, c'est donc le métier de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui hacker éthique. C'est-à-dire que Une société nous mandate, il nous dit, voilà, faites les hackers pour, contre nous et dites-nous toutes les failles que vous avez trouvées à la fin. Et donc, j'ai postulé et j'ai réussi à finalement à faire le métier de mes rêves. Donc, j'ai monté depuis moi ma société NeoCyber, où je loue mes services de pentester, de hacker éthique. Aujourd'hui, je me lève avec le sourire. J'ai pas l'impression de travailler quand j'ai une mission. Et bah, j'ai la chance d'avoir tout un tas de missions, que ce soit pour des petites entreprises françaises, comme des grands groupes industriels, comme l'ONU, Interpol, parfois du partage de renseignements avec des services français comme la DGSI. Et en y repensant, je me revois, quand je suis sorti de la garde à vue pour être déféré en prison, je revois ce commissaire qui m'avait fait une injonction un peu. Il m'avait dit « Fais des études et on se retrouvera ». Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on travaille ensemble.
C'était un très jeune hacker, un reportage de Rémi Dibos qui doit être réalisé par Somaya Dabesh. L'attachée de production, c'est Sandrine Chaperon, avec Hortense Martin. Merci à Florent Curtet, auteur au Cherche-Midi de Hack-moi si tu peux, mémoire d'un cyber-pirate repenti.